Question de la salle. Monsieur là, merci d'être bref.
Bonsoir. Peut-être une question pour Pierre-Noël Giraud, qui à la fin évoquait le manque, enfin l'absence d'alternatives crédibles et alternatives que vous évoquez, enfin qui devraient être radicales. Est-ce que justement l'économie sociale et solidaire, dont la MAIF ici est une représentation, hein, donc j'entends, enfin on entend par économie sociale et solidaire le regroupant en gros des associations, des coopératives et des mutuelles. Est-ce que ça ne serait pas justement une alternative crédible? Alors j'entends enfin concrètement, en gros, donc changer la structure juridique des entreprises, donc interdire les entreprises, enfin les sociétés par action, les SARL, et les remplacer toutes, enfin globalement, par des entreprises de l'économie sociale et solidaire.
Pierre-Noël.
Oui, mais bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure en disant qu'il faut redéfinir les frontières entre le marché avec acteurs privés et puis quelque chose de collectif. Bon. Remplacer dans certains domaines des activités de marché motivées uniquement par le profit pour l'actionnaire, par des collectifs de production, etc., vous déplacez ces frontières. Mais vous voyez bien que là, on n'est pas dans le radical du tout. C'est une lutte de tous les jours. C'est de la guérilla.
Monsieur propose de le faire pour toutes les entreprises, si j'ai bien compris.
Oui, par exemple.
Par exemple.
Ah oui, non, mais... Oui, non, mais ça,
Est-ce que, ça peut être une solution générale ou seulement une solution partielle?
Je ne connais pas ce programme. Enfin, je veux dire, je n'ai pas connaissance d'un programme d'ensemble visant à faire ça. Tout ce que j'entends, c'est qu'on devrait favoriser l'industrie, l'économie sociale et solidaire, étendre son champ, donc limiter le champ des autres. On est dans une lutte de guérilla. Il y a des zones libérées de la loi des reins du profit, et ces zones libérées, il faut les s'élargir, les agrandir. Mais en face, on a les autres qui, eux, vont faire tout ce qu'ils peuvent pour reconquérir le terrain. Donc, on est bien dans une espèce de lutte permanente qui s'apparente à la guerre des partisans, si vous voulez, et qui n'est pas du tout la figure de rupture radicale. Mais moi, je ne crois pas qu'il faille réinventer l'Union soviétique, hein, pas du tout, qu'on ne se trompe pas sur ça. Je pense qu'il faut réinventer la politique, que la forme parti n'est plus adéquate, etc. Enfin, bon, c'est pas le débat aujourd'hui. Mais voilà, ce que vous dites là, ça fait partie de ce que j'appelle le réformisme, horizon indépassable. Plus de biens publics, moins de biens privés, plus d'économie sociale et solidaire, moins d'économie gouvernée par le profit. Plus de coordination entre États, tout ça, c'est le réformisme. Mais je pense que le réformisme est toujours soumis à la divergence des intérêts. N'allez pas aujourd'hui parler aux Indiens d'une taxation du ciment pour lutter contre l'effet de serre. Ils produisent une tonne de carbone par habitant et par an, les Américains 20, les Européens 10 et les Chinois déjà 5. Et l'objectif mondial pour maîtriser le climat, c'est 3. Donc vous voyez bien, il y a des divergences d'intérêts. Les solidarités objectives, elles sont difficiles à trouver. Qu'est-ce qui fait qu'un informaticien indien aujourd'hui est hyper compétitif? Pourquoi est-ce que les informaticiens indiens formés à Stanford sont revenus en Inde et sont en train de tailler des croupières à ceux qui sont restés en Californie? Mais parce que les Indiens sont pauvres. Parce qu'il y a des très pauvres chez eux. Et donc ils peuvent se payer, pas des voitures, justement ça c'est un bien mondial, mais des maisons, des domestiques, etc. Et avec un salaire 4 fois inférieur à celui qu'ils avaient en Californie, ils vivent beaucoup mieux. Donc aujourd'hui, les gens qui sont dans la compétition mondiale, ils ont intérêt à ce que les gens qui leur fournissent des services à la personne soient pauvres et que ces services soient bon marché. Les solidarités nationales qui existaient dans des territoires fermés, où quand Ford a compris que s'il augmentait ses ouvriers, si tout le monde le faisait, c'était très bon parce qu'il allait vendre des voitures aux ouvriers, c'est fini ça. Vous augmentez vos ouvriers maintenant, c'est les autres qui vendent des voitures chez vous. Donc il faut quand même voir ça comme c'est. Bon, alors... voilà, donc oui, mais on va déplacer des frontières, on va gagner un peu de terrain, on va reperdre du terrain, et ainsi de suite. C'est une guérilla sans fin, et bon, mais allons-y.
Autre question? Des questions là? Bon, on va prendre à d'autres endroits de la salle, donc plutôt par là. Madame là, très vite donc.
À travers tous ces exposés, je n'ai pas entendu une seule fois évoquer le mot libéralisme, néolibéralisme. On est resté trop près du capitalisme d'aujourd'hui à travers la crise financière. Le libéralisme, qui est la source de tous les maux, qui est la doctrine matrice du capitalisme, autrefois, au XIXe siècle, signifiait générosité et abondance. Aujourd'hui, ces tenants veulent plutôt qu'il signifie exclusivement le laisser-faire intégral. Qu'en pensez-vous?
Merci. Question de monsieur, on va prendre les trois questions. Et
après... Oui, moi je vais simplement dire qu'en vous écoutant, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de raisons d'espérer.
Merci, on commençait à penser le contraire. Mais...
Oui, et simplement je voulais vous poser la question, est-ce qu'il y a quand même des signes? On voit bien qu'il n'y aura pas de solution au niveau des pays. On peut changer les règles françaises, ça ne changera rien du tout. Le problème, il est au niveau mondial. Je veux simplement savoir, est-ce que vous voyez des signes concrets, des petites lumières dans les sphères des économistes de l'OMC ou de FMI? Est-ce que ces réflexions que vous évoquez, est-ce qu'elles ont des chances dans les années à venir de devenir opérationnelles? Parce que sinon, on désespère. Hein.
Merci. Troisième question, madame, si on peut lui apporter le micro très vite. Et puis, on va faire un petit tour après.
Eh ben moi, je serais assez positive sur cette crise parce qu'on parle dans cette crise de toute cette histoire financière. On parle beaucoup du PIB, produit intérieur brut, mais ce qu'il faut peut-être penser par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur la nouvelle alternative, on est entre guillemets un exemple pour la Chine et les pays effectivement comme l'Inde, puisqu'on a été au summum de nos capacités technologiques et on peut continuer, mais on peut peut-être apprendre, enfin pas leur apprendre, restons modestes, mais le PIB, le bonheur intérieur brut. Le bonheur intérieur brut, effectivement, il peut se développer. C'est pas que par l'argent qu'on peut l'obtenir. Voilà.
Merci. Enfin de ce signe d'espoir. Gaël, peut-être d'abord sur le libéralisme.
Ça marche? Oui. Sur le libéralisme, c'est une question horriblement compliquée. C'est une question très piégée parce que le libéralisme, ça veut dire beaucoup de choses, quasiment tout, et son contraire. Il me semble qu'au moins au XVIIIe siècle, où on peut traditionnellement essayer d'identifier la naissance de ce que nous appelons aujourd'hui, nous, le libéralisme, vous avez en réalité au moins deux grandes traditions que souvent on oublie de distinguer. Vous avez une première tradition qui est pessimiste, que l'on identifie déjà chez Hobbes, chez Locke, ce type de penseur, qui vous dit fondamentalement l'homme est un loup pour l'homme, c'est un danger, le lien social c'est une menace et il faut mettre des barrières pour canaliser cette menace. Et par exemple, le rapport à l'État, c'est un rapport dangereux parce que l'État, tendanciellement, il est totalitaire, donc il faut lui mettre des barrières, la séparation des pouvoirs par exemple, etc. Montesquieu, vous voyez, donc c'est cette ligne-là, qui est une ligne pessimiste, que vous retrouvez encore aujourd'hui chez des intellectuels français, par exemple, comme René Girard, hein. Le désir mimétique, la violence mimétique, l'élimination du bouc émissaire, c'est encore une anthropologie, me semble-t-il, pessimiste. Puis vous avez une autre tradition libérale, qui a aussi le droit de citer, au XVIIIe siècle, qui est les plus optimistes, qui dit le lien social, c'est une promesse, une chance de bonheur pour vivre ensemble. Là, vous trouvez des gens comme Rousseau, comme Kant et d'autres. Et aujourd'hui, dans le paysage, disons, de la philosophie politique contemporaine, vous avez des gens comme Habermas, du côté allemand, vous avez des gens comme Rawls, du côté américain, Martin Nussbaum, etc. Ce sont deux traditions libérales. Et en fait, si vous pensez à la question libérale dans ces termes-là, vous voyez que souvent, la ligne de partage, me semble-t-il, au plus profond, elle se situe là. Alors évidemment, là, vous avez raison de dire qu'il y a quelque chose du libéralisme qui est fondamentalement terrifiant et qui est la cause de beaucoup de nos maux, c'est que il y a là, sur la première branche, la branche pessimiste, c'est greffé depuis le début du XXe siècle ce qu'on pourrait appeler, pour essayer de distinguer un tout petit peu, un libertarisme dont les origines sont à trouver notamment dans l'école autrichienne et en particulier chez Hayek. Friedrich Hayek, dont vous savez sans doute qu'il est l'un des maîtres à penser des révolutions de Thatcher et de Reagan en Angleterre et aux États-Unis. Hayek, voilà quelqu'un qui a essayé de pousser jusqu'au bout cette vision pessimiste du lien social et qui en a tiré la conclusion que le marché était l'unique institution capable d'organiser ces sociétés où l'homme est un loup pour l'homme. Voilà. Je répondrai ça pour essayer d'aider à clarifier le débat. Et donc moi, je ne jetterai pas le libéralisme à la poubelle parce que c'est à Kant que nous devons ça, notamment à Rousseau, vous voyez, la Révolution française, les droits de l'homme, ça, c'est aussi une autre ligne.
Merci de cette leçon de philosophie politique de deux siècles en 120 secondes. Pierre Noël, sur les signes de concret, ce que vous voyez dans les organisations internationales, des réflexions intéressantes qui avancent?
Oui, bien sûr.
Merci.
Et donc... La progression, les idées progressent. Mais oui, mais sur le climat, ça progresse. Même sur les questions financières. Par exemple, il y a un an, personne ne parlait du recloisonnement de la finance. Personne. On parlait du salaire des traders, des paradis fiscaux, de toutes questions intéressantes par ailleurs. Mais Maintenant, on commence à en parler. J'ai vu dans Le Monde des articles qui disaient qu'on pourrait peut-être se poser la question de trouver des formes modernes pour isoler les activités dangereuses dans le système financier des autres. Mais, donc ça progresse. Mais enfin, bon. Et encore une fois, pour que ça aille, ça se traduise en actes, il faut qu'il y ait une pression politique internationale. Et c'est vraiment ça qui est difficile à obtenir. Parce que le cavalier seul et le passager clandestin, ce sont des phénomènes extrêmement répandus dans le monde actuel.
Oui, je crois que derrière un discours souvent univoque des grandes organisations internationales, il y a derrière un flot de réflexions et souvent assez iconoclastes, qui ne sortent évidemment pas dans les publications officielles, mais qui font partie des gens qui sont dans l'institution eux-mêmes parfois et autour des institutions. Mais ensuite, pour que ça progresse, il faut que ça sorte et ensuite, effectivement, il faut du soutien politique. Jean-Christophe, là-dessus, puis peut-être aussi sur le bonheur.
Moi, je pense c'est qu'il faut inventer dans la situation comme ça. Et c'est peut-être là-dessus qu'on est un peu...
C'est aussi une chance.
Voilà, oui, mais c'est un peu là-dessus qu'on est en panne. Après tout, je lis les trois questions, le libéralisme, les signes concrets et la question du contenu de la croissance. La vague libérale qui s'est imposée pendant 20 ans, elle a été construite par 30 ans ou 40 ans de batailles politiques. Enfin, les sociétés du Mont-Pèlerin, c'est les années 30, et l'histoire vient maintenant d'être faite, d'ailleurs, de ces idées. Donc, voilà, et ils ont mis du temps à cheminer et à s'imposer. Je pense qu'on a du retard aujourd'hui dans la capacité, justement, à produire un certain nombre d'idées neuves. Alors, ce qui domine encore, c'est... Alors, je préfère ça, quand même, mais je ne me satisfais pas. C'est le retour aux solutions des années 30, enfin, de la crise précédente. Keynes et réhabilité et tout. Mais je pense que ça ne va pas aller assez loin... compte tenu justement de la nature nouvelle des problèmes qui sont posés devant nous. La question climatique, la société de l'information, tout ça, c'est des choses que Keynes n'avait pas travaillé, donc il va nous falloir inventer justement, y compris des processus démocratiques nouveaux. Alors, signe concret, moi, je trouve quand même que, alors pour l'instant, ils sont essentiellement au niveau du débat, mais je trouve que le débat s'ouvre. Je ne suis pas sûr qu'on ait eu ce même débat il y a 3 ans. Enfin, je débattais encore avec certains autres économistes qui m'expliquaient que la finance autorégulée, c'était maintenant l'horizon indépassable de la régulation financière. Il y en a qui ont écrit des bouquins entiers là-dessus. 3 ans après, c'est fini et ils ne tiennent plus le même discours. Donc je pense qu'on en est là à se poser des questions, mais il va falloir essayer d'inventer des solutions nouvelles. Et l'une d'entre elles, c'est probablement... effectivement, de déterminer ou de trouver quel peut être le nouveau contenu à la croissance. Quoi. Voilà. C'est quel mode de développement va-t-on pouvoir inventer pour y compris concilier la pérennité d'un certain niveau de vie, même s'il faut transformer la consommation chez nous, avec les possibilités de développement de l'ouvrier à Shanghai ou à Vientiane. Voilà. Est-ce qu'on est capable de se projeter dans un horizon suffisamment long pour être capable de trouver les points sur lesquels on va pouvoir se rencontrer pour construire finalement cette perspective d'une nouvelle croissance à l'échelon, cette fois-ci à l'échelon mondial?
On va prendre très vite une dernière question, s'il y en a une. Si, c'est une dernière. Là-haut, monsieur a un micro, excusez-moi. Non.
Oui. Quelqu'un à la tribune, je crois que c'était Pierre-Noël Giraud, demandait des alternatives radicales. Alors, je vais en citer deux pour être provocateur. La première consisterait à arriver à imposer qu'aucun placement, aucun investissement, aucune spéculation ne puisse rapporter plus que 3%. Point barre. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas faire de l'argent avec l'argent. C'est la seule révolution qu'on ne fera jamais et c'est la seule qui sera efficace. La deuxième proposition aussi extrême, c'est le contenu social et environnemental des produits que nous consommons. Et là, j'arrive sur un autre sujet qui n'a pas été abordé, un autre terme qui n'a pas été dit et qui est fondamental parce que nous sommes tous complices, tous, même les rémistes, c'est que nous sommes en société de consommation. Je dis toujours brutalement, si en moyenne on consommait 3 fois moins pour 2 fois plus de prix, eh bien il n'y aura plus de problème de Chine à tenir du monde. Eh bien ça, personne n'est prêt à aborder cette question que nous consommons trop, mal, et qu'il faudrait des régulations, non pas basées sur le prix le plus bas, mais le prix le plus équitable, c'est-à-dire avec le meilleur salaire pour ceux qui produisent, compte tenu du pays, et avec les meilleures règles environnementales. Ce n'est pas du protectionnisme, c'est assurer la survie aujourd'hui et surtout la survie de l'espace, de l'espèce que nous, personne ici ne verra, même les plus jeunes, mais dans 100 ans, on risque de la sentir passer bien pire qu'aujourd'hui.
Merci. Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir ? Gaël ?
Oui, je peux réagir sur les 3%. En fait, sur le principe, je suis absolument d'accord avec vous. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à ces questions-là. Par exemple, vous savez que Warren Buffett, qui n'est pas du tout un gauchiste chevelu barbu, a proposé qu'on taxe à 100% toutes les plus-values à moins d'un an. Ça veut dire que si vous gagnez de l'argent en spéculant sur un horizon inférieur à un an, bien vous redonnez tout à l'État. Voilà. Ce type de proposition-là est discuté aujourd'hui, et ça, c'est un signe très positif. On n'en parlait pas du tout il y a 2 ans. Voilà. Il y a beaucoup d'autres propositions qui circulent dans cet horizon-là. L'idée essentielle, c'est un peu ce que vous avez dit, c'est de diminuer l'effet de levier, le leverage, pour parler le jargon des financiers anglo-saxons, c'est-à-dire le fait qu'avec très peu de capitaux propres, vous arriviez à avoir des profits colossaux. C'est ça qu'il faut réduire. Et il y a 1000 manières de le faire. Alors évidemment, dire 3%, mais la question qu'on va tout de suite vous poser, c'est pourquoi 3, pourquoi pas 2,5, pourquoi pas 3,5, etc. Mais soyez sûr qu'il y a d'énormes débats là-dessus et qu'il y a plein d'idées qui courent sur cette question-là. Ça, c'est certain.
Jean-Christophe ?
Oui, il y a des propositions aussi d'économistes, je ne sais plus comment, c'est le SLAM, c'est l'acronyme d'un système de limitation du rendement des entreprises. C'est un peu avec le même système, au-delà d'une certaine rentabilité qu'on juge économiquement stable, on va prendre la totalité ou la grosse partie de la rémunération complémentaire. Je pense que
c'était la même idée d'ailleurs avec le relèvement du taux marginal supérieur de l'impôt sur le revenu pour les individus.
Ce que vous avez cité, avec en plus là l'effet sur les individus, que ça peut faciliter la consommation au détriment d'une logique d'épargne qui est celle forcément des plus hauts revenus. C'est-à-dire que moi, globalement, je pense qu'on a besoin de... Je ne vais pas crier vive l'impôt, même si je suis d'originaire de cette administration. On n'aime pas l'impôt, mais ça peut être un outil efficace. Mais il n'y a pas que cet outil-là. La gestion des institutions financières, bancaires ou autres, moi je suis pour qu'il y ait un pôle public financier qui permette d'imprimer certaines orientations différentes aux investissements tels qu'ils sont réalisés, avec pas les mêmes soucis. Après tout, avec le livret A, on a fait le logement social. En rémunérant moins une épargne pour pouvoir loger les millions de personnes qui passaient de la ruralité à la ville. Est-ce que demain, on n'est pas capable d'avoir des instruments collectifs français ou européens qui permettront de financer le développement de services, d'activités, sans avoir ces exigences de rentabilité telles qu'on les connaît aujourd'hui? Voilà, je pense que c'est des débats qui aujourd'hui sont sur la table. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, vous étiez qualifié de gauchiste pur et simple. Quand vous osiez évoquer ça, on était dans un autre monde. Alors bon, les choses vont, à mon avis, progressivement changer. La question, c'est qu'on a une certaine course de vitesse entre des contradictions qui demeurent et la capacité d'apporter ces solutions avant que l'on ait une crise qui sera douloureuse pour tout le monde, hein, avant qu'on ait fini de payer celle d'aujourd'hui.
Bertrand, vous voulez insister sur une piste qui vous paraît essentielle ?
Parce que là, bon, j'écoutais avec beaucoup d'attention tous nos éminents spécialistes de l'économie. Bon, on parle de crises qui vont se répéter. Moi, je crois que la voie, et là, bon, j'aurai une vision vraiment à plus long terme, elle passe par l'éducation à la consommation. Bon, là, c'est le citoyen engagé, l'enseignant qui vous parle. Moi, je crois que quand on n'est pas optimiste, bon, il faut changer de métier. Quand on est dans l'enseignement, moi, je crois beaucoup à l'intelligence des enfants. Moi, je travaille avec des enfants très, très, très jeunes, et il y a une véritable force qu'il va falloir développer. Alors, éduquer, c'est pas... Moi, je suis militant à la MAIF et tout, mais je ne suis pas pour présenter un modèle unique. L'éducation, c'est justement donner une palette suffisamment large pour qu'on ait affaire à des citoyens, à des citoyens responsables, mais qui pourront vraiment choisir leur avenir. Alors, c'est vrai que ça ne règle pas le problème de la crise actuelle, mais je crois qu'il faut absolument éduquer. Bon, c'est un petit peu la vocation des journées auxquelles on participe, c'est de voir qu'il faut un petit peu démocratiser, vulgariser un petit peu l'économie. À mon avis, l'économie, c'est la responsabilité de tous. Parce que tout à l'heure, je l'ai dit, on attend des pouvoirs publics, on attend différentes instances européennes, mondiales, des économistes. On a bien lu que l'économie ne ment pas, mais ne prédit pas l'avenir. Moi, j'ai lu ça récemment et je crois qu'effectivement, c'est le cas. Donc, il faut absolument permettre à nos enfants de ne pas subir pendant des décennies un petit peu ces crises sans qu'ils puissent pas être partie prenante dans la construction économique de notre pays.
Merci. Il est évidemment impossible de faire une synthèse de ces travaux en 30 secondes immédiatement. Je voudrais juste, moi, retenir deux idées. Premièrement, il faut faire de la pédagogie, il faudra continuer, il faudra faire peut-être des journées de l'économie politique, puisque c'est un point absolument crucial. Et l'économie politique, c'est l'économie et la politique, mais c'est aussi la façon politique de faire avancer, de faire changer l'économie, et c'est absolument crucial. Et puis alors, quant au thème qui était demain le capitalisme, moi ce que j'ai compris, c'est que demain le capitalisme sera en crise et sans doute pas mieux qu'aujourd'hui. Donc je vous donne rendez-vous l'an prochain pour une rencontre sur le thème « Après demain le capitalisme ». Merci aux intervenants.